Eh bien, ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau parmi vous. Et je vous invite à suivre avec moi deux lectures dans l'Écriture sainte. Et la première sera le texte de notre méditation dans Matthieu au chapitre 26, versets 26 et 27. Texte bien connu donc de la Sainte Seine. Et puis l'autre texte bien connu que nous lisons tous les dimanches de 1 Corinthiens 11, 23 à 29. Donc, dans un premier temps, le texte de Matthieu, chapitre 26, versets 26 et 27. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et puis le texte donc de 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 29. C'est l'apôtre Paul donc qui reprend ces paroles de Jésus et qui dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ensuite, il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, tu nous donnes cette possibilité encore aujourd'hui d'être rassemblés en ton nom. Et nous voulons, au nom de Jésus, en écoutant ces paroles que lui-même a prononcées, demander à ce que l'Esprit Saint, celui qui a soufflé ces paroles dans l'esprit de ces gens qui ont écrit ces textes, eh bien que ce même Esprit puisse maintenant même, aujourd'hui même, nous parler, nous corriger si nécessaire, nous encourager et nous permettre de mieux connaître notre Dieu, afin de mieux le faire connaître. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte ici, surtout dans le texte de Matthieu. C'est un contexte un peu particulier, puisque c'était juste avant la dénonciation de Jésus par Judas, et même Jésus va le dire, il va dire « Un de vous va me dénoncer », et même Judas va dire « Est-ce moi ?» Il lui dit « Oui ». Et pourtant, on voit même Judas qui va même prendre ce repas avec les autres. Et c'est donc une période bien particulière parce que les disciples ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Et Jésus est en train de leur dire quelque chose qui est quand même un peu particulier. Alors, on pourrait presque appeler ce repas le dernier repas du condamné, mais seul Jésus le sait, les autres ne le savent pas encore. Alors, Jésus, on voit au verset 26, dit... Il prépare ses disciples à son départ et alors qu'ils étaient en train de manger, il prend du pain comme ils l'ont fait si souvent. Et puis il prie et en rompant ce pain et en le distribuant à ses disciples, il dit quelque chose de vraiment curieux. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Comment les disciples ont-ils compris ces paroles? Et comment devons-nous les comprendre? Et la question de fond que nous voulons poser ce soir est dans quel sens Jésus est-il présent dans le pain de la Sainte Seine? Alors, il y a quatre vues différentes que nous retrouvons dans l'Église depuis des siècles. Il y a d'abord l'Église catholique romaine, il y a l'Église luthérienne, l'Église évangélique et l'Église réformée. Alors, l'Église catholique romaine croit qu'il faut prendre les paroles de Jésus littéralement. Le pain en question devient littéralement le corps de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la transsubstantiation, c'est-à-dire une présence transmise. Alors, le pain ou l'hostie est d'abord ordinaire, mais au moment où le prêtre prononce les paroles de l'institution de la scène, hoc est corpus meum, le pain devient littéralement le corps du Christ. Cela ressemble toujours à du pain, mais il est devenu le corps du Christ, donc il parle d'une présence physique et réelle du Christ dans l'Eucharistie ou dans la Sainte Cène. Alors l'Église luthérienne, au moment de la Réforme, croit aussi qu'il faut prendre littéralement les paroles du Christ, mais avec une différence avec l'Église catholique romaine. Les luthériens diront que le pain est réellement du pain, qu'il reste du pain, mais que le corps du Christ est enclos dans le pain. Le Christ est donc bien là, dans le pain, réellement présent, physiquement présent dans le pain, mais il rejette l'idée d'un transfert par les paroles d'un prêtre. Ils parleront donc de consubstantiation. Alors pour les enfants peut-être qui écrivent ces choses dans leurs petites notes là, je vous appellerai ça s'il vous plaît après. Mais donc on a parlé d'abord de transsubstantiation et maintenant on parle de consubstantiation, c'est-à-dire une présence simultanée. Et puis alors on rentre ensuite dans la catégorie des églises évangéliques en général qui croient que le pain de la Sainte Cène c'est juste du pain, c'est-à-dire de la farine, de l'eau, du sel et du levain, qui forment une pâte qui est pétrie, fermentée et cuite au four. Et ce pain, pendant la Sainte Cène, reste du pain. Il n'y a pas de présence réelle de Christ, la scène n'est ni plus ni moins qu'une commémoration ou un souvenir de la mort de Jésus-Christ. Et alors l'Église réformée, je l'ai mis en dernier parce que je crois que l'Église réformée, et je vais essayer de vous le prouver aujourd'hui, à la bonne théorie là-dessus, l'Église réformée croit que le pain reste effectivement du pain, que le pain symbolise le corps du Christ, tout comme le vin symbolise le sang du Christ, mais à la différence des évangéliques, nous croyons nous aussi, avec l'Église catholique romaine ou l'Église luthérienne, qu'il y a une présence réelle du Christ, mais une présence réelle spirituelle et non physique. Donc présence réelle spirituelle mais non physique. Il n'y a donc pas ni de transfert physique du Christ, ni de présence simultanée du Christ dans le pain, mais il y a une présence réelle spirituelle du Christ pendant la Sainte Cène. Alors pourquoi ne prenons-nous pas littéralement les paroles de Jésus ? Si nous devions prendre littéralement les paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Ceci est mon corps », alors cela signifierait que Jésus n'avait pas un corps humain comme le nôtre. Cela signifierait que Jésus a mangé son propre corps puisqu'il a participé lui-même à la Sainte Cène. Et si Jésus avait un corps différent du nôtre, alors il faut remettre en question toute la théologie de l'incarnation. Également, si nous devions prendre littéralement les paroles de Jésus quand il a dit « Prenez manger, ceci est mon corps », alors pourquoi ne pas prendre littéralement d'autres paroles qu'il a prononcées, comme par exemple « Je suis la porte »,« Je suis le cep », »,« Je suis le chemin », »,« Je suis la lumière », »,« Je suis le roc ». Symboliquement, il est la porte par laquelle nous devons passer pour avoir accès au ciel. Symboliquement, il est le cep et nous sommes les sarments rattachés à lui. Symboliquement, il est le roc sur lequel nous construisons notre vie. Symboliquement, il est la lumière qui nous éclaire. Symboliquement, il est le pain de la Sainte Cène. Donc, le pain et le vin ne sont pas la chair physique ni le sang réel du Christ, mais ils représentent son corps et son sang. Et lors de la Sainte Cène, en prenant ce pain et en buvant ce vin, par la foi, nous discernons la présence spirituelle de Jésus comme s'il était réellement présent au milieu de nous. Son corps est absent. Il est au ciel. Qu'est-ce que nous disons dans le credo ? Il siège à la droite de Dieu. Mais quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », cela impliquait bien l'absence de son corps physique. Lorsque nous parlons de mémoire de quelqu'un, c'est bien parce que la personne n'est plus physiquement présente, mais tout en étant absent de corps. Nous savons aussi que Jésus est avec nous. Il est en nous. Alors, les évangéliques ont raison lorsqu'ils disent que Jésus ne peut être physiquement présent dans le pain et le vin, mais en même temps, Jésus nous dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment concilier les deux? Et il n'y a qu'une explication possible. Jésus est au milieu de nous, non pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant, c'est-à-dire par la présence de l'Esprit Saint. Esprit Saint qu'il a envoyé, vous vous souvenez, pour le représenter. Donc la Sainte Cène est une commémoration, mais elle est plus qu'un souvenir de la mort du Christ. Car lors de cette commémoration, Jésus est présent au milieu de nous, une présence réelle, mais spirituelle. Regardez le verset 27. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le sang du Christ, représenté par le vin, est appelé le sang de l'Alliance. Alors pour comprendre cette alliance et la signification du sang, du sacrifice, il faut quand même remonter à nos origines, à nos grands-parents, Adam et Ève. Nous savons tous que Adam et Ève ont péché et qu'ils furent terrorisés des conséquences de leur faute. Dieu les avait prévenus. Il leur avait dit, vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Genèse 2, 16, 17. À ce moment-là, Adam et Ève n'avaient probablement pas une idée bien claire de ce qu'était la mort, mais ils savaient que c'était sérieux. Malgré les mises en garde de Dieu, ils ont choisi d'aller contre le commandement de Dieu, et ce soir-là ne fut pas une soirée comme les autres. Comme chaque soir, Dieu les appelle dans le jardin et ils se sont cachés. Ils ont honte, ils ont peur, ils n'avaient jamais connu la peur auparavant, ils n'avaient jamais connu la honte auparavant, mais personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu les trouve et Dieu les confronte. Que pourrions-nous espérer d'une telle confrontation? Dieu avait dit à nos premiers parents que le jour où ils pêchent, ils mourront, et voici, ils ont péché. Alors, nous devrions nous attendre à une exécution immédiate. Si Dieu avait choisi de les exécuter sur le champ, ça aurait été parfaitement juste. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, Dieu a condamné le péché d'Adam et Ève. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a exécuté un sacrifice. Il a tué des animaux. Et il revêtit Adam et Ève de la peau de ces animaux sacrifiés. C'était la première mort de l'histoire. Et c'est Dieu qui en est l'exécuteur. Imaginez ce que cela a pu être pour Adam et Ève, qui étaient des végétariens, qui n'avaient jamais vu le sang couler. Imaginez ce qui s'est passé dans leur tête. Du sang, un animal mort. Mais ils ont vite compris que la mort de ces animaux serait due d'être la leur. Qu'est-ce que Dieu leur montra par ce sacrifice? Il leur a montré que malgré le fait que cette mort-là devait être la leur, c'était possible que quelqu'un d'autre, mais dans le cas des animaux, de mourir à leur place. Des animaux innocents ont payé pour le prix de leur péché et Adam et Ève furent vêtus de la peau de ces animaux comme rappel de ce sacrifice. Et c'est ce que nous appelons en théologie une substitution. Alors maintenant, la Bible dit clairement dans Hébreux 10, 4 que la mort des animaux ne peut jamais enlever, ôter les péchés. Là encore, il y a un symbole. Le symbole de comment le péché devait être enlevé. Et le symbole annoncé dirige nos regards vers le vrai sacrifice, celui de Jésus-Christ dont nous venons de célébrer avec la fête de Pâques, sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Dieu a fait une alliance avec Adam et Ève. Nous appelons cette alliance une alliance de grâce. Il les a graciés dans son amour, mais pas au prix de sa justice. Il fallait que quelqu'un paye. Il fallait un substitut humain qui était sans péché, quelqu'un de parfait. Et il fallait que ce substitut soit le Dieu infini pour prendre sur son compte une quantité infinie de péchés. Mais il fallait aussi que cet homme soit un homme comme nous, parfait, pour prendre notre place. Jésus fut cette personne, c'est lui notre substitut. Alors en donnant à ses disciples la coupe, quand il dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Quand on connaît l'histoire de nos grands-parents, quand on connaît l'histoire de cette alliance que Dieu a faite dans toutes les générations, qui amène tout vers Jésus-Christ, là, pour les disciples, il commence à y avoir un petit peu de compréhension. Notre Dieu a fait une alliance avec nous, une alliance de grâce. Une alliance dans laquelle il a fait des promesses qui sont confirmées par des signes. Il donna le signe de l'arc-en-ciel à Noé pour confirmer son alliance avec lui. Il donna le signe de la circoncision à Abraham pour confirmer son alliance avec son peuple, signe qui fut remplacé par le baptême dans la nouvelle alliance. Il ordonna la Pâque avec le sacrifice d'un agneau sans défaut, sans tache, comme signe de la venue de l'agneau de Dieu qui, lui, ôte les péchés du monde, Jésus-Christ. Et la Sainte Cène a donc remplacé la Pâque juive qui annonçait depuis des siècles la venue de Jésus-Christ. La Sainte Cène, avec le pain et le vin, représente le corps et le sang de Jésus comme signe de notre communion rétablie avec Dieu par Jésus-Christ. J'ai lu il y a quelques années l'histoire de ce qui s'est passé dans une église en Allemagne. Il y a, paraît-il, toujours aujourd'hui un agneau sculpté dans la pierre, aux places centrales de cette église. Et la raison derrière cette sculpture est la suivante. Alors que les charpentiers étaient en train de finir la charpente de cette église, l'un d'eux perdit l'équilibre, il tomba en arrière et fit une chute de plusieurs mètres. Et ses collègues étaient convaincus qu'il était mort, alors ils descendent à toute vitesse, et ils descendent, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Leur ami debout, un peu étourdi, et à côté de lui, un agneau mort par terre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé sur cet agneau, et c'est cet agneau qui a absorbé sa chute, et qui finalement lui a sauvé la vie. Et donc, en retour pour remercier en quelque sorte ce pauvre agneau qui était maintenant bien mort, eh bien, en souvenir de cela, eh bien, ils ont décidé de faire une sculpture représentant cet agneau. Mais quel symbole! Quel symbole quand on parle de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui était parfait, qui ôte les péchés du monde. C'est ce que Jésus a fait pour nous, et c'est ce que nous commémorons tous les dimanches avec la Sainte Cène. Alors, selon les paroles de Jésus, nous allons commémorer ce sacrifice, cette substitution, vous souvenez ce qu'il a dit, jusqu'à mon retour parmi vous. Donc, on le fait jusqu'à ce qu'il revienne. Et une petite parenthèse là, parce qu'on a parlé de l'Église catholique romaine, et je crois que c'est important de la faire. Nous avons parlé donc des différents sens, de comprendre le sens de la présence de Jésus dans la Sainte Cène. Et en parlant de sacrifice, il y a quand même une autre différence majeure entre l'Église catholique romaine et les Églises protestantes, toutes confessions confondues. Pourquoi est-ce que nous allons au culte plutôt que les catholiques vont à la messe, par exemple? Vous avez posé la question? Eh bien, parce que la messe signifie le sacrifice du corps et le sang de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin. Nous n'allons pas à la messe, mais nous allons au culte, car l'Épître aux Hébreux dit clairement, au chapitre 7, verset 27, que c'est une fois pour toutes que le Christ a été sacrifié. Donc, nous ne venons pas resacrifier Jésus-Christ tous les dimanches, mais nous venons le célébrer. Nous venons lui rendre un culte, nous venons lui rendre hommage. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas un autel devant nous, mais une table. Car le Seigneur nous convie à sa table. et non pas un autel sur lequel on fait à nouveau un sacrifice. Un autel, c'est pour le sacrifice, et il n'y a plus lieu d'offrir un sacrifice pour être réconcilié avec Dieu. Le seul sacrifice que nous pouvons offrir ce soir, en tant que son peuple, c'est comme Hébreux 13, 15 le dit, un sacrifice de louange et d'adoration. Ou encore le psaume 116 parle de sacrifice d'action de grâce. Mais revenons à la Sainte Cène. La Sainte Cène, donc, nous renvoie au passé pour nous rappeler l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix une fois pour toutes. Elle nous rappelle qu'il s'est substitué à notre place. Elle nous rappelle l'alliance de grâce, là où l'amour et la justice de Dieu se sont rencontrés. Mais la Sainte Cène nous ramène également au présent, car en commémorant le sacrifice du Christ, nous prenons conscience par la foi de sa présence réelle et spirituelle aujourd'hui même, maintenant même. Comme ce petit garçon qui un jour s'arrête en pleine campagne devant un peintre qui peint un peuplier. Il lui demande « Pourquoi est-ce que tu peins ce peuplier puisqu'il est là ?»« Pour que tu le vois, » répondit le peintre. « Nous savons que Jésus est avec nous tous les jours. Il nous parle et nous pouvons lui parler quotidiennement. Mais nous pouvons prendre encore plus spécialement conscience de sa présence au milieu de nous pendant la Sainte Cène, qui nous peint en quelque sorte sa présence pour que nous puissions le voir. Mes amis, au moment où nous prenons ce pain et cette coupe, prenons conscience de la présence réelle, même si spirituelle, de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme si c'était lui-même qui venait au milieu de nous afin de lui-même nous distribuer le pain et le vin, comme il l'a fait avec ses disciples. Mais si la scène nous renvoie au passé et nous ramène au présent chaque dimanche, la scène nous emmène aussi dans le futur. Puisque le jour approche, le jour tant attendu, le jour le plus glorieux, avec le retour triomphal de Jésus-Christ. Vous savez, le triomphe de César à son entrée à Rome, ou alors le triomphe de l'équipe de foot qui va gagner la Coupe du Monde au Brésil, aura l'air d'un sacrifice manqué, enfin d'un peu d'artifice manqué plutôt, ou d'un pétard mouillé, comparé au triomphe de ce roi des rois, ce triomphe qu'il va recevoir lorsqu'il revient dans sa gloire. C'est un petit peu d'ailleurs comme les préparatifs d'un mariage, et je crois qu'il y a un couple ici qui va se sentir très concerné par cela, mais au ciel, tout se prépare pour ce grand mariage. C'est les anges, c'est les archanges qui, eux tous, pendant des années, attendent avec impatience cette grande fête. Ce sera non seulement le retour glorieux de Jésus-Christ, l'époux, mais ce sera son union avec l'Église. C'est nous, l'épouse. Alors l'Écriture parle d'un grand banquet, et tous les chefs seront français, ça c'est sûr, auquel nous serons tous invités si nous avons ici-bas reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Roi. Nous serons invités à sa table et nous allons célébrer avec Jésus-Christ la Sainte Cène et beaucoup d'autres choses. Parce qu'originellement, d'ailleurs, la Sainte Cène se faisait dans le cadre d'un repas, d'une agapée. Donc, il y aura une grande fête, mais nous allons célébrer cela avec Jésus. C'est lui qui le dit, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est les paroles de Jésus, et j'imagine que les disciples ont ouvert des grands yeux quand ils ont entendu cela. En attendant ces noces, nous sommes invités à goûter un peu de cette fête en célébrant ensemble le repas du Seigneur chaque dimanche. Voilà pourquoi je suis vraiment reconnaissant que cette église, comme celle de Paris d'ailleurs, le fait tous les dimanches. Il y a des bonnes raisons pour cela. Dans quelques instants, nous allons prendre ce repas et nous allons donc être fortifiés. Car je vais vous donner maintenant trois raisons pour lesquelles c'est important. Et le premier, c'est que la Sainte Cène nous fortifie. C'est Jean Calvin qui a décrit d'ailleurs ainsi, il a dit, le but du sacrement sont un peu comme les colonnes, les piliers d'un bâtiment. Le bâtiment repose sur la fondation, mais on rajoute à la fondation des colonnes pour renforcer, consolider, soutenir un peu plus le bâtiment. Et notre foi repose sur la parole de Dieu qui est notre fondation. Mais les sacrements sont rajoutés à la parole de Dieu pour la confirmer et fortifier notre foi. Ce sont ces fameuses colonnes dont Jean Calvin en parle. La Bible nous dit d'ailleurs, quand il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », croire implique un engagement personnel, mais lorsque nous prenons le repas du Seigneur, c'est un peu comme si les paroles de Dieu devenaient encore plus personnelles. Jésus, spirituellement présent dans le pain et dans le vin, nous dit d'une façon encore plus personnelle « Oui, je suis mort pour tes péchés à toi, et par la foi, en te nourrissant de moi, je te fortifie pour la vraie vie qui ira jusque dans l'éternité. » Donc la Sainte Cène est importante parce que c'est comme ça que Dieu nous fortifie. Mais il y a une autre raison. La deuxième chose que nous recevons avec le sacrement de la Cène, c'est que Dieu l'utilise dans nos vies comme un moyen de grâce pour nous enseigner. Non pas qu'il y ait quelque chose de magique ou une grâce spéciale que Dieu nous communiquera à ce moment-là. Ne tombons pas dans la superstition. Mais de même que Dieu se sert de la prédication ou de la méditation de sa parole pour nous parler, de même, il se sert de la Sainte Cène pour nous parler. En prenant ce morceau de pain, en prenant cette coupe, ce signe visible, tout l'enseignement de la parole de Dieu concernant l'œuvre de Christ pour moi devient plus réel. D'une certaine façon, je suis enseigné, je suis exhorté, je suis repris. Et puis une troisième raison. La Sainte Cène scelle notre foi. D'ailleurs, la Cène, comme le baptême, sont des sacrements qui nous sont donnés comme signe visible d'une grâce invisible de Dieu dans notre vie. C'est comme le sceau de Dieu sur notre vie. Et là encore, vous allez peut-être mieux comprendre l'analogie, mais un jeune homme et une jeune fille se fiancent. Ils se font des promesses de mariage, mais le jeune homme n'a pas encore offert la bague de fiançailles à sa future épouse. Quelle différence est-ce que cela fait? Ils sont réellement fiancés, n'est-ce pas? Mais un soir, à l'occasion de l'anniversaire de la future épouse, le jeune homme lui offre une belle bague de fiançailles avec des beaux diamants. Qu'est-ce que cela produit? La jeune femme va montrer à tout le monde sa belle bague. Mais qu'est-ce que cette bague a rajouté aux paroles du jeune homme quant aux fiançailles? Rien du tout. Si le jeune homme était de parole, rien du tout. Pourtant, cette bague fait quelque chose dans le cœur de la fiancée. C'est un signe concret, visible, qui lui rappelle de façon régulière, surtout au soleil, la promesse de celui qui se garde pur pour elle et qui se prépare à la prendre pour épouse. C'est ça, mes amis, qu'un sacrement produit. La parole de Dieu est tout à fait suffisante. Et Dieu tient toujours ses promesses et le salut qu'il offre en Jésus-Christ est réel. Notre assurance nous est donnée par Dieu et sa parole et rien d'autre. Pourtant, la Sainte Cène, ce signe visible, ordonné par Dieu, nous aide, scelle dans nos cœurs cette promesse de Dieu pour nous. Et voilà pourquoi il est si dommage de se priver de ce moyen de grâce que sont le baptême ou la Sainte Cène. Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Alors pour conclure, si nous sommes tous invités à participer au repas du Seigneur, nous sommes par la même occasion invités à prendre ce repas dignement. Et ça nous ramène à notre texte de 1 Corinthiens 11. On sait que l'église de Corinthe avait pas mal de problèmes et qu'il y en a même qui venaient à l'église dans les Acabées avec le repas du Seigneur et qui étaient ivres. Et donc, il y avait besoin de mettre un petit peu les mises en garde, et l'apôtre Paul le fait, et on doit le faire toujours aujourd'hui dans l'Église, mais il nous dit, ne prenez pas ce repas avec tout ce que je viens d'expliquer là, indignement. Il y avait des divisions dans l'Église, certes, il y avait des péchés non confessés, il y avait de l'animosité, il y avait du scandale. Il fallait absolument que ces personnes qui vivaient dans le désordre mettent leur vie en ordre avant de pouvoir prendre dignement un repas aussi important que celui du Seigneur. Alors non pas que nous devrions attendre le dimanche pour le moment de la Sainte Cène pour régler nos vies avec Dieu ou avec notre prochain et confesser nos péchés, non. Ça si, nous sommes appelés à le faire, journellement. Et si nous ne l'avons pas fait, durant la semaine, au moins, au moment du culte, on commence notre culte par un temps de confession des péchés, c'est le moment de le faire. Mais si nous ne l'avons pas fait à ce moment-là, soyez sûr de le faire avant de prendre le repas du Seigneur pour ne pas le prendre indignement, c'est-à-dire dans un état de rupture et de non-communion avec Dieu. Et mes amis, la Sainte Cène est une occasion chaque dimanche de nous mettre en règle avec Dieu et si nécessaire avec notre prochain. Pensez que si vous avez un conflit avec celui qui est à côté de vous en ce moment, eh bien vous allez passer l'éternité avec lui. Alors autant régler le problème maintenant, ce sera plus facile. Mes amis, la mise en garde est également donnée à ceux qui n'ont pas encore invité Jésus personnellement dans leur cœur comme le Sauveur et le Roi de leur vie. Vous vous souvenez qu'une de ces paraboles de Jésus parle de ce banquet de noces et certaines personnes n'avaient pas l'habit de noces. Et le texte nous dit qu'ils furent jetés dehors. Jésus nous a revêtus d'un habit de noces. Un habit de ça qui nous couvre complètement, qui nous purifie, ça nous permet de rentrer dans ce banquet extraordinaire avec ce qu'on appelle la justice de Jésus-Christ. Il nous a couverts, il nous a graciés, nous sommes les invités à ce banquet. Donc, pour être invité à la table du Seigneur, il faut d'abord l'avoir invité dans votre cœur à venir habiter en vous et à venir régner dans votre vie. Lorsque Jésus fait cela, il vous purifie, il vous offre une robe blanche, sa justice, sa sainteté, cela vous rend digne d'être reçu à sa table. Donc, ainsi sont invités à la table du Seigneur tous ceux qui l'ont d'abord invité dans leur cœur et qui vivent en communion avec lui. Mais un rappel quand même, parce qu'il y a des gens qui se sentent tellement pécheurs et qui ne méritent pas une telle chose, qu'ils s'abstiendront de prendre le repas du Seigneur. Si c'est le cas, si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, et que vous êtes sincèrement repenti, ne vous abstenez pas. C'est lui qui vous invite à sa table. C'est la table de Jésus-Christ. C'est lui qui vous invite. C'est une table pour des pécheurs. Mais des pécheurs que nous sommes tous, gracié et reçu à nouveau dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas encore ce soir, si vous êtes ici, et moi je ne vous connais pas tous, mais si vous êtes là et que Jésus-Christ n'est pas le Sauveur de votre vie, le Seigneur de votre vie, invitez-le. Invitez-le à venir dans votre vie par la foi. Et ensuite, si vous êtes baptisé, prenez ce repas. Prenez ce pain. Prenez ce vin, ça prendra tout son sens. Et puis si, et j'espère que c'est le cas de tout le monde ce soir, vous êtes déjà en communion avec lui, eh bien pensez à ce que vous faites quand nous prenons ce pain et ce vin, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Il est vraiment présent, non pas physiquement, mais par la foi, nous discernons sa présence comme s'il était au milieu de nous, et c'est lui qui nous invite à prendre ce repas. Alors je vous invite à un temps maintenant de silence, de réflexion, parce que nous allons bientôt la prendre, cette Sainte Cène, et puis je vais terminer par une prière. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement comblés en pensant à cette période de Pâques, en vue de cette incroyable histoire de ton ascension. Toujours dans ce temps de Pâques, nous voulons nous souvenir de ces paroles que tu as données, Seigneur Jésus, à tes disciples, comment ils les ont comprises et comment nous devons les comprendre aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, donne-nous dans ta grâce de les comprendre un peu plus. Et qu'en prenant ce pain et buvant cette coupe ce soir, nous puissions, avec plus de compréhension et plus de communion avec ta présence, de réaliser combien combien tu es bon envers nous, car c'est toi qui nous invites à ta table, tu as payé le prix, et tu nous invites maintenant à le célébrer avec toi. Et nous attendons ton retour, Seigneur Jésus, où nous allons pouvoir tous ensemble, sans l'obstacle du péché, nous réjouir pour l'éternité dans ta présence, avec des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui t'appartiennent. Merci pour cela, merci pour tes promesses, et donne-nous d'être fortifiés à nouveau lorsque nous prenons ce repas. Ta parole, qui est la vérité, nous sanctifie. En Jésus-Christ. Amen.